Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la maire du 7e arrondissement qui va conquérir ou essayer de conquérir la mairie de Paris pour son parti Les Républicains. Elle publie chez Plon « La confiscation du pouvoir », citation en exergue de ce livre « Je veux vous raconter sans indulgence l'élite qui dirige la France ». Questions et réactions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Rachida Dati, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro. Ce livre, il retrace votre parcours et il esquisse, à travers ce parcours, un portrait décapant de l'élite française, comment elle fonctionne, comment elle se perpétue, quels obstacles il faut franchir pour espérer avoir une carrière politique quand, comme vous, on n'est pas du sérail. On va y venir longuement avec Léa dans quelques instants, mais auparavant, comme vous êtes candidate à la mairie de Paris, quelques questions sur ce week-end où les Gilets jaunes célébraient le premier anniversaire de leur mouvement. À Paris, samedi, le rassemblement a été perturbé par la présence de nombreux casseurs et des violences, place d'Italie. Est-ce que vous estimez, pour commencer, que le maintien de l'ordre a tout de même été efficace et à la hauteur ?
Ces manifestations récurrentes, ça fait plus d'un an maintenant que nous assistons à des manifestations qui deviennent de plus en plus violentes. Et donc, moi je n'excuserai jamais la violence, jamais. Donc je la condamne totalement. Mais c'est vrai que moi, donc, en déplorant cette violence, ça n'a pas, en tous les cas, arrêté les revendications d'une grande frange de la population, de nos concitoyens, qui vivent dans la difficulté, qui vivent dans la misère. Et c'est vrai que on s'est pris en pleine figure tous ces Français. Et sur les ronds-points, dans les rues, dans les villes, à manifester simplement pour pouvoir vivre décemment. Avant, quand on parlait de pauvreté, souvent on considérait que c'était quelqu'un qui n'avait pas d'appartement, pas d'emploi, enfin qui n'avait pas de ressources. Aujourd'hui, ce sont des gens qui travaillent durement, qui ont des familles et qui ne s'en sortent pas. Et donc, malgré tout ce qui a pu être mis sur la table, ça n'a pas réglé ni l'avenir, ni les perspectives de ces familles, et encore moins leur problème de pouvoir d'achat.
Pourtant, ils étaient 280 000 à battre le pavé le premier samedi de mobilisation il y a un an. Ils étaient plus que 28 000 samedi dernier, un an après, pour leur anniversaire. Le mouvement des Gilets jaunes est-il, selon vous, affaibli ou carrément dans l'impasse ?
En tous les cas, leurs revendications ne sont pas affaiblies. Vous savez, Madame Salamé, quand vous manifestez, alors c'est vrai que les mouvements de grève, moi je suis une fille d'ouvrier, d'ailleurs c'est le propos de ce livre. Moi j'ai connu, mon père était ouvrier, il a été maçon, puis il a été balayeur dans une usine, et donc je connais cette condition ouvrière, qui était représentée aussi par des syndicats. Donc les revendications collectives permettaient d'obtenir des droits supplémentaires pour leurs conditions de travail. Mais il y avait aussi une solidarité qui s'exerçait dans le cadre de ces mouvements. Aujourd'hui, quand vous avez tous ces Français qui se dressent en disant on ne peut pas vivre, on est à la limite de la survie, on n'a plus d'ambition pour nous et encore moins pour nos enfants. Et il faut tenir dans le temps, parce que ces gens-là prennent sur leur congé, ne travaillent pas. Ça ne peut pas durer dans le temps. Et je pense que certains ont compris ça en disant à l'usure, ils vont bien arrêter parce qu'il faut qu'ils vivent. Il n'y a pas de cagnotte les concernant. Ils n'ont pas de rente ou de ressources à côté pour pouvoir tenir dans la durée. C'est ça, moi, qui me gêne un peu. Et ce qui est d'ailleurs... Je le mets dans le livre, c'est ce qui m'a poussé et incité à écrire. C'est pas le livre, c'est pas l'histoire de ma vie, c'est l'histoire d'une condition sociale en France qui, à force d'humiliation, de mépris, de non-considération, à un moment donné, ça pète, pardonnez-moi l'expression.
Je vous cite dans ce livre « La confiscation du pouvoir ». On m'a soupçonné, on m'a attaqué, on m'a qualifié de parvenu et d'intrigante. Il y a ceux pour qui rien n'est jamais assez pour justifier ce que j'ai obtenu, et ceux qui considèrent que, quoi qu'il arrive, je ne serai jamais des leurs. Fin de citation. En clair, vous dites qu'on vous a toujours dénié toute forme de légitimité à être où vous avez fini par être. Comment l'expliquez-vous ?
Tout d'abord, très jeune, et il y a des chapitres qui concernent mon vécu, ce que j'ai pu voir. En ce moment, on parle des violences faites aux femmes, comme si on découvrait ce phénomène, qui était un phénomène profond qui existe depuis longtemps. Moi, j'ai compris cette solidarité féminine, les combats collectifs, les combats pour la survie. Et donc, moi, j'ai compris très tôt et très jeune que les clés de ma liberté, la clé de ma liberté, c'était le travail. Et je me disais, si je travaille, si je réussis, je serai totalement libre. Et en fait, vous vous rendez compte que vous travaillez, vous réussissez, et quand même, votre liberté est relative, parce qu'on vous soupçonne. On vous soupçonne si vous réussissez, et puis on vous montre du doigt si vous échouez.
Pourquoi on vous soupçonne? Pourquoi vous dites ça?
Parce que je pense que, d'abord, moi, j'ai eu la chance très tôt d'avoir changé de... Enfin, la chance, entre guillemets, je le dis, c'est une chance, parce que derrière moi, j'en ai drainé d'autres. J'ai eu la chance d'avoir changé de milieu très tôt, grâce à des... C'est vrai, à des personnes qui m'ont fait confiance pour travailler. Ils ne m'ont pas fait confiance pour me faire plaisir. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Je faisais du porte-à-porte, je vendais des produits dans la cité où j'habitais. Et ensuite, j'ai été aide-soignante. J'ai une formation d'aide-soignante. J'ai exercé pendant plus de 6 ans. Aide-soignante de jour, de nuit, j'ai été standardiste. J'ai beaucoup travaillé.
Vous avez besoin de le raconter dans ce livre-là, comme si, d'une certaine manière, on vous avait fait des mauvais procès en disant les robes de luxe, les marques de luxe, Rachida Dati se plaît à se laisse voulu, aller à profiter de sa nouvelle condition. Vous avez besoin de revenir aux origines, c'est
non,
ça?
Parce que moi, je me souviens d'une journaliste de Elle qui me disait « Vous avez trahi votre condition en étant trop bien habillée ». J'ai dit « Faites attention, parce que la question d'après, c'est « Est-ce que je ne suis pas trop propre ?» Est-ce qu'il n'y a pas une question d'hygiène, quasiment ?» Non, moi, j'ai...
En fait, vous assumez, vous voulez revenir à vos origines pour terminer en disant « J'assume les robes de marque,
non,
j'assume tout ».
Non, c'est pas ça. Non, c'est que je n'ai rien volé. Je n'ai rien, rien n'est usurpé, c'est mon travail. C'est mon travail. Je n'ai jamais voulu écrire. Et croyez-moi que nombreux éditeurs ont demandé à ce que j'écrive sur ma vie, sur mon parcours, sur les embûches, sur les épreuves.
Mais alors pourquoi vous l'avez fait là?
Je n'ai jamais voulu le faire parce que j'ai toujours craint et je craignais qu'on dise elle instrumentalise son parcours, elle instrumentalise ses épreuves, pour ne pas dire elle instrumentalise sa famille. J'ai jamais voulu le faire. Aujourd'hui, je sais tout le faire parce que d'abord j'ai une petite fille, mon père est décédé depuis, et puis, dès lors, il y a eu ces rencontres pendant des mois. J'ai rencontré des gens qui manifestaient dans le cadre de ces gilets jaunes. Et je me disais, finalement, je ne peux pas nier ce qui est à l'origine de mes combats et de mes engagements politiques. Il faut que j'explique cette France-là, dont je suis issue, avec une dimension supplémentaire qui est liée aussi à une origine multiple. Mais c'est vrai que cette légitimité, on me l'a toujours déniée.
Valérie Pécresse, à ce micro, Rachida Dati nous disait la semaine dernière qu'en politique, une femme doit être deux fois plus vigilante qu'un homme et qu'une femme de droite doit l'être quatre fois plus. Vous êtes d'accord?
Une femme tout court, mais l'essentiel...
Non, elle dit qu'à droite, c'est encore pire.
Comment vous dire? Moi, je pense que la droite a produit un parcours comme le mien, pour les responsabilités politiques que j'ai pu occuper. Mais ça a été, je le reconnais, moi j'ai travaillé, j'étais magistrat avant de travailler pour Nicolas Sarkozy. Et on a fait beaucoup de choses au ministère de l'Intérieur. Quand il me nomme garde des Sceaux, pour lui, il y a une légitimité à ce que je sois garde des Sceaux. On me le déniait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la droite revient à ses vieux travers. J'allais dire de repli, de un peu réactionnaire, et très compliqué. Je raconte une partie dans ce livre. Je me souviens d'un entretien que j'avais. On était autour de Nicolas Sarkozy et certains déniaient les qualités ou les compétences professionnelles de Valérie Pécresse ou de Nathalie Kosciusko-Morizet. Moi, j'étais pas forcément à cette époque très liée ni à l'une ni à l'autre. Et j'ai pris à témoin Jean-Pierre Raffarin parce que je les ai défendus. Et j'ai dit, Monsieur le Président, si vos ministres hommes étaient aussi compétents, aussi qualifiés que vos ministres femmes, vous auriez très heureux. Et j'ai dit à Jean-Pierre Raffarin, tu ne peux pas laisser dire ça. Et effectivement, il en a convenu. Mais c'est toujours, tout est compliqué.
Sur la question de légitimité, vous racontez dans le livre une anecdote avec François Hollande. Il est président, vous briguez un poste à la tête d'une entreprise du CAC 40, vous lui écrivez, il vous répond, vous lui écrivez pour lui dire j'aimerais bien ce poste, il vous répond pourquoi pas, et puis ensuite vous recevez un second SMS qui ne vous était pas destiné, de François Hollande, qui dit quoi?
En fait, à un moment donné, je me suis... mon père était gravement malade. Il a beaucoup souffert des attaques publiques que j'ai subies. Que moi j'ai subies, c'est pas grave. Je suis construite pour les attaques. Je suis construite, je le dis dans le livre. Je n'ai jamais été en zone de confort. Jamais. De toute ma vie à ce jour. Et donc, moi, ça fait partie de mon ADN. Mais qu'on attaque ma famille, mon père l'a très mal vécu. Ma petite fille, c'était...
Hollande, il vous répond quoi? Non, mais,
et donc, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas changer de vie? Et je rencontre l'actionnaire majoritaire de cette entreprise qui me dit, et pourquoi tu ne serais pas, parce qu'il avait un sujet lié à son dirigeant. Il me dit, finalement, tu pourrais diriger cette entreprise. J'avais les compétences requises, j'avais l'expérience requise, j'avais le tempérament requis, et donc il me dit, on peut en parler au président. Je lui ai envoyé SMS sur les conseils d'ailleurs de Jean-Pierre Jouyet, qui est à l'époque à la Caisse des dépôts. On en parle et il me dit oui, pourquoi pas. Et il me répond oui, pourquoi pas. Et en fait, il envoie, je pense que c'était ce SMS destiné à Jean-Pierre Jouyet ou à quelqu'un d'autre en disant non mais c'est pas possible, mais comment on va le justifier ? Elle n'est pas du sérail, donc ça va être compliqué à gérer et à expliquer. Donc voilà, donc ça en dit long. C'est-à-dire que ça en dit long. Alors que pour d'autres, on ne s'est jamais interrogé sur cette possibilité.
Vous racontez souvent ça, l'épisode avec Hollande en est un des nombreux épisodes que vous racontez dans le livre où, au fond, vous dites, à chaque fois que j'ai brigué un poste ou à chaque fois que j'ai eu un poste, on m'a fait ce procès de légitimité. Et je me demandais quand même si... On a l'impression que c'est toujours de la faute des autres.
Non, pas du tout.
Que c'est toujours à cause de vos origines ou à cause du fait que vous n'avez... Ma question, oui. C'est la suivante. Est-ce que tout simplement, vous ne vous demandez pas si vous n'avez pas le poste ou si Hollande ne vous le donne pas ou un autre ne vous le donne pas? C'est juste parce qu'il y a une personne meilleure que vous.
Sans doute. Mais est-ce que j'aurais pas fait le parcours que j'ai fait si je n'avais pas considéré qu'il y avait des personnes meilleures que moi? Et tant mieux. Ça n'est pas la question. C'est que vous n'êtes jamais dans leur viseur, quoi qu'il arrive. Ça n'est jamais pour vous. Donc voilà, c'est
enfin,
ça.
Enfin, en l'occurrence, elle a été pour vous. Vous avez été garde des Sceaux, vous êtes aujourd'hui la candidate de LR, alors que vous dites que le parti se recroqueville, et pourtant, il vous nomme à Paris.
Mais justement, on en parlait juste avant d'entrer dans le studio. La question, elle n'est pas là. Quand Nicolas Sarkozy souhaite déjà me nommer porte-parole, mais c'est contre vents et marées. Certains considèrent que je vais le faire perdre. Ensuite, quand il me nomme garde des Sceaux, il considère que j'avais fait plus que mes preuves et que j'avais la compétence pour cela. Moi, je dis pas c'est la faute des autres, jamais.
Vous dites un peu c'est la faute des autres dans le livre. Si je peux me permettre une critique, c'est souvent la faute des autres parce que vos origines, parce que vous êtes femme,
Non, d'abord, je ne parle jamais de mes origines, je parle d'une condition sociale. C'est totalement différent. Moi, je n'ai jamais ni ethnicisé, ni communautarisé mon parcours ou ma vie.
Donc vous reprochez un peu à Sibeth Ndiaye.
Non.
Vous n'aimez pas la comparaison
pas
avec
du tout.
Elle.
Ça n'est pas un reproche. Et elle n'est pas. C'est pas de sa faute. Elle est née dans le milieu dans lequel elle est. Ce que j'explique concernant Sibeth, c'est de dire qu'on réduit la diversité. Pardonnez-moi de l'expression. On réduit la diversité en disant on va nommer un noir ou une arabe. Mais c'est pas ça la diversité. La diversité, elle est liée à la condition sociale. Moi, je me sens plus proche d'une fille d'ouvrier que d'une fille, effectivement, d'un milieu très favorisé.
Est-ce que vous dites que Sibeth Ndiaye est fille de diplomate, c'est ça qui vous gêne dans la comparaison?
C'est pas un reproche. C'est simplement, effectivement, une comparaison liée à des arguments qui ont pu être donnés en disant, ils sont noirs et arabes, c'est tous les mêmes. Non, ça n'a rien à voir. Je parle de la condition et non pas de l'origine.
Et vous dites d'ailleurs, Rachida Dati, qu'un profil comme le vôtre, un parcours comme le vôtre ne pourrait plus émerger aujourd'hui. Pourquoi vous dites ça?
En tout cas, politiquement, je pense que c'est très compliqué aujourd'hui.
Pourquoi?
On a régressé.
Moi, je pense qu'on a régressé. Je pense que ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en me nommant, d'abord porte-parole, il a donné un signal fort à la France. Moi, je me souviens de rencontres. D'ailleurs, j'étais en déplacement avec c'était Christian Estrosi et Dominique Estrosi-Sassone. Nous étions dans les quartiers de l'Ariane à Nice. Et il y avait des jeunes femmes qui me disaient, mais pour une fois, mais je revendique le fait de m'appeler Rachida. Et donc, ça a donné un signal fort. Et donc, aujourd'hui, on a régressé. Regardez les nominations, on est dans la cooptation. Ça n'est plus des nominations, ce sont des cooptations. Et je trouve que la force de la France, c'est de pouvoir réinvestir sa valeur liée à la méritocratie. Quand je titre la confiscation du pouvoir, c'est de démontrer qu'il y a une certaine élite qui se satisfait du blocage de l'ascenseur social.
Vous dites ça alors que Emmanuel Macron a quand même mis à la porte toute une série de dirigeants qui avaient leur ronde serviette à l'Assemblée nationale, etc. On a toute une nouvelle génération, on en pense qu'on veut, mais c'est vrai que le Parlement a été durablement renouvelé. En tout cas, dans le fond, il y a beaucoup de gens c'est leur premier mandat, il y a beaucoup plus de jeunes.
Mais regardez sur l'analyse sociologique, c'est des CSP+. Est-ce que vous avez des ouvriers, des enfants d'ouvriers, des agriculteurs au sein de l'Assemblée?
Il n'y en a jamais eu beaucoup.
Oui, je suis d'accord avec vous. Donc ce renouvellement ne s'est pas fondé sur la condition sociale, ou c'est du recyclage. Benjamin Griveaux, pour ne prendre que lui, il est candidat à la mairie de Paris, mais il était socialiste, moi je l'ai connu socialiste. Il était conseiller municipal dans une ville de province, sous l'étiquette socialiste. Il a été conseiller de Marisol Tourelle, sous l'étiquette socialiste. Donc c'est du recyclage, ça n'est pas du renouvellement, ça n'est pas une nouvelle forme de nomination. Ça n'a rien à voir.
Puisque vous le citez, puisque vous êtes candidate à la mairie de Paris, à la dernière élection aux européennes, beaucoup d'électeurs parisiens qui avaient voté François Fillon au premier tour, beaucoup d'électeurs de droite ont choisi Emmanuel Macron. N'ont pas revoté à droite, ont choisi Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui les ferait revenir vers vous, voter pour vous, alors que d'une certaine manière, Benjamin Griveaux ou Cédric Villani sont plus neufs, sont plus frais en politique?
Écoutez, avec ce que je viens de vous dire, plus neuf, Benjamin Griveaux, il était socialiste. Et il est depuis des années au Parti Socialiste. Il était encarté Parti Socialiste.
Oui, moi, il n'était pas dirigeant depuis deux ans.
Vous savez, moi je suis née à côté de Chalon-sur-Saône. Il a été conseiller municipal à Chalon-sur-Saône. Ils étaient dans la majorité, c'est eux qui dirigeaient la ville. Ça a été une catastrophe, ils ont été battus. Donc le bilan de M. Griveaux à Chalon-sur-Saône n'a pas été probant.
Mais un électeur de droite du 7e ou du 16e arrondissement, qu'est-ce qui lui ferait revenir vers Rachida Dati plutôt que Griveaux ou Villani?
D'abord, la municipale, ça n'est pas une élection européenne. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a un rapport beaucoup plus de proximité et d'accessibilité. D'ailleurs, je vais vous dire, moi j'ai toujours fait de la politique avec une colonne vertébrale, des convictions. Moi, on ne pourra jamais dire que je ne suis pas authentique dans mes engagements. Je n'ai jamais trahi politiquement. J'ai effectivement des valeurs claires, un combat clair. Et les Parisiens, d'ailleurs, plus généralement les Français, louent le fait d'avoir une certaine fidélité, une certaine colonne vertébrale. Donc moi, je crois à la proximité, à l'accessibilité et au terrain. Donc la campagne a à peine commencé. Moi, j'espère convaincre les Parisiens sur notre projet.
Allez, on est au standard. Ouvrons le débat avec les auditeurs de France Inter. On est au standard avec Robert, que je salue. Bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur, bonjour mesdames, et merci de prendre mon appel. Oui, pour être rapide, j'entendais Madame Dati, tout à l'heure, parlant des gilets jaunes et de la classe ouvrière, défendre la veuve et l'orphelin, alors qu'elle vient de dire à l'instant qu'elle n'a jamais trahi ses engagements politiques. Or, elle a été ministre sous Sarkozy, qui a quand même mis en place l'impôt sur la fortune pour favoriser les riches, qui a allongé la durée de cotisation pour partir en retraite. Donc en fait, elle a un discours, Madame Dati, pardonnez-moi, a un discours que j'entends progressiste, à ma grande surprise, alors qu'elle a toujours milité et qu'elle milite toujours dans un parti qui favorise les riches au détriment des pauvres. Mmh. Et là, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Merci Robert pour cette question que beaucoup d'auditeurs se posent. Que se passe-t-il? Merci hein, Robert. Domi sur l'application d'Inter, que se passe-t-il? Madame Dati est-elle passée à gauche pendant qu'elle était au gouvernement, Monsieur Sarkozy? La précarité des Français la gênait-elle autant? Cordialement, que répondez-vous à nos auditeurs, Rachida Dati?
J'ai entendu ces deux interpellations et ces deux interrogations. Je n'ai jamais trahi ni ma condition ni mon origine sociale. Et la condition ouvrière a toujours été un marqueur chez moi. Quand je vais travailler pour Nicolas Sarkozy, quand je m'engage, quand il est ministre de l'Intérieur, c'est que ça a été son premier discours sur la sécurité. Il dit, le problème de la sécurité en France, et notamment dans certains territoires, c'est effectivement la sécurité des plus modestes, des plus vulnérables. Il dit finalement, les plus favorisés ont moins de problèmes de sécurité que ceux qui sont plus en difficulté. Parce que quelqu'un qui rentre chez lui en ayant peur, il n'est pas libre. Et donc, moi, j'ai effectivement été à ses côtés sur un texte sur la prévention de la délinquance, sur les violences conjugales. Je vous mets
et sur le bouclier fiscal, Rachida Dati.
Oui, sur le bouclier fiscal.
Il dit et il fait aussi la première grande mesure, c'est le bouclier fiscal qui fait qu'il a regretté d'ailleurs après.
Pas du tout. Et sur le bouclier fiscal, c'est de dire, nous maintenons effectivement l'ISF, il l'a maintenu, mais en disant si effectivement il y a des mesures favorables aux plus aisés, il faut qu'ils investissent dans l'économie française. Cette disposition a été supprimée d'ailleurs par François Hollande. Et donc ça a été un réinvestissement dans l'économie. Que fait-il en même temps? Les heures supplémentaires défiscalisées. Tous les Français, les ouvriers, les salariés, lui en ont été gré de cette mesure.
Emmanuel Macron, il a bien fait de supprimer l'ISF? Une partie de l'ISF?
C'est une partie de l'ISF.
Il a bien fait?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, je reprends toujours l'argument de dire, quand vous faites une mesure, ou vous la faites totalement, mais vous ne la faites pas à moitié. Parce que ceux qui la veulent sont pas contents, et ceux qui ne la veulent pas sont pas contents.
D'accord, il aurait dû aller jusqu'au bout, c'est ça?
Non, je pense que là, on est au milieu du guet. Sur l'ISF.
Mais il aurait dû le faire complètement.
Soit on l'enlève totalement.
Votre avis à vous?
Moi, je pense qu'effectivement, l'ISF tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un marqueur plus idéologique qu'un marqueur économique.
Encore une question de Christophe, cette fois-ci sur l'application France Inter. Les maires de France sont en congrès. Christophe nous dit « Je ne me souviens pas d'une décision charismatique du président des maires de France, François Baroin. Pensez-vous qu'il a la stature pour faire un futur président de la République, Rachida Dati ?»
François Baroin est quand même président de l'Association des maires de France. Je peux vous dire que quand on a supprimé des dotations aux maires et à l'ensemble des maires de France. Il s'est battu pour qu'il y ait un rétablissement d'une partie de ces dotations. D'autre part, il a été quand même aussi en alerte et il avait interpellé le président sur effectivement ces difficultés des Français auxquelles on enlevait encore plus de services en raison de la réduction des moyens vis-à-vis des maires. Il a alerté le président de la République sur ce risque de manifestation que nous avons eu, qui a été inévitable dans les mois qui ont suivi. Donc, peut-être qu'on le voit pas assez, mais en tous les cas, il fait un vrai travail de fond en faveur des maires, et des maires notamment des maires ruraux, et ça se voit sur le terrain.
Donc, il a les épaules pour 2022.
Mais vous me parlez comme
c'est
président...
C'était la question de l'auditeur. Ouais.
C'est quelqu'un qui a du talent, qui est intelligent, qui est compétent et qui a évidemment une stature pour pouvoir être candidat à la présidentielle.
Allez, rapidement, Leïla au standard, bonjour.
Bonjour,
bienvenue.
Merci de prendre mon appel et d'offrir vos ondes aux citoyens. Je vous soutiens d'ailleurs dans votre résistance et dans votre volonté d'avoir un peu plus de budget, enfin qu'on ne vous les supprime pas en tout cas. Moi, je voulais poser une question à Madame Dati. Elle parle beaucoup des gilets jaunes, elle a été élue, elle a été députée, enfin elle a été ministre, etc. Et elle revendique un petit peu la parole des gilets jaunes. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'elle comprend la défiance des citoyens contre les élus
la défiance, la corruption,
en tout cas, et est-ce qu'elle comprend la volonté de ne plus élire nos maîtres qui seraient nos représentants, mais de voter nos lois par les RIC, par le RIC par exemple,
le référendum d'initiative citoyenne. Leïla, merci. Rachida Dati vous répond.
Je me considère pas comme une porte-parole des Gilets jaunes. Je me considère évidemment en lien avec les causes, en accord avec les causes qu'ils peuvent défendre pour certains. De dire qu'il y a une défense vis-à-vis des élus, bien sûr, mais moi je la comprends. Quand vous avez des élus ou qui ne tiennent pas leurs engagements, ou qui trahissent leurs convictions, ou qui changent de parti, ou qui changent de couleur uniquement pour sauver leur poste, ça je peux comprendre qu'il y ait une vraie défiance vis-à-vis de ces élus. Ça, les Français ne supportent plus les gens qui passent d'un parti à un autre, qui aient des accords d'appareil uniquement pour sauver leur siège. Ça, c'est le premier aspect. Sur l'autre aspect, moi, j'ai été en charge de la réforme de la Constitution en 2008.
Oui, allez-y, pardon.
J'ai été en charge de la réforme de la Constitution en 2008. Qu'ai-je mis dans cette Constitution ? Moi, d'abord, je suis très fière d'avoir créé des autorités indépendantes importantes, et notamment parce que quand je réforme la Constitution, on donne plus de droits aux citoyens, plus de pouvoir au Parlement, et on encadre les pouvoirs du président de la République. Dans cette augmentation de droits aux citoyens, au-delà du défenseur des droits que j'ai créé et instauré, nous avons créé le référendum d'initiative partagée. C'est moi qui l'ai mis dans la Constitution. C'est vrai que nous avons...
Il faut 4,5 millions de personnes pour pouvoir le saisir.
Non mais déjà, ça a été un combat de le mettre dans la Constitution, Madame Salamé, c'est pas si simple. Donc aujourd'hui, qu'on puisse aller
vers plus de paroles données
aux citoyens, moi j'y suis favorable.
Il reste une minute, deux questions d'actualité pour terminer. Christian Jacob, le patron de votre parti, Bruno Retailleau, Gérard Longuet et d'autres ont signé une tribune dans le JDD hier pour demander que Carlos Ghosn soit rapatrié et jugé en France. Est-ce que vous le demandez aussi ?
Moi je trouve que ce qui se passe avec cette affaire, on a vu les difficultés que connaît Renault depuis la chute de Carlos Ghosn, et je pense qu'il y a un lien, qu'il y ait des choses à reprocher à M. Ghosn, moi je ne suis pas effectivement à l'intérieur de cela. Mais il y a aussi un aspect sans doute économique, sans doute de stratégie et tactique de la part des partenaires de Renault pour pouvoir évidemment déstabiliser ou affaiblir
Renault dans son partenariat. Donc il faudrait qu'il soit jugé en France.
Non mais moi je ne suis, vous savez, moi j'ai été magistrat et garde des Sceaux. Jamais je ne mettrai en cause la justice souveraine des autres pays. Je dis simplement que nous avons des droits fondamentaux à préserver et à protéger à tous nos concitoyens et partout dans le monde.
Je vous parle de Carlos Ghosn notamment aussi parce que votre nom est cité dans une enquête du parquet national financier qui porte sur des contrats de conseil que vous auriez conclu avec une filiale de Renault-Nissan du temps de Carlos Ghosn.
Avec Renault-Nissan,
du temps de Carlos Ghosn. Vous avez donc conclu des contrats de conseil. Enquête du parquet national financier. Cette enquête va-t-elle perturber votre campagne ?
Elle ne perturbera pas ma campagne parce que je suis déterminée. Il ne s'agit pas d'une enquête d'initiative du parquet national financier, ni même de Renault. Il s'agit d'un avocat issu d'Occident qui a déposé plainte contre moi en ayant pris comme cliente sa femme, en ayant acheté des actions Renault avant une assemblée générale et qui a déposé plainte le jour où j'ai annoncé ma candidature à Paris. Je suis déterminée. Moi, je connais la magistrature, je connais la justice. Je regrette qu'on puisse instrumentaliser la justice à chaque échéance électorale. Je suis déterminée. Mais je saurai qui était à l'origine de cette manœuvre et qui a poussé cet avocat.
C'est qui ?
J'en sais rien. Je vous dis simplement que cet avocat, qui est issu des milieux d'Occident, contre lequel j'ai déposé plainte, a fait de manière très opportune déposer cette plainte.
Rachida Dati, merci. Merci d'avoir été à notre micro ce matin. La confiscation du pouvoir chez Plonge, sous-titre, je veux vous raconter sans indulgence, l'élite qui dirige la France. Merci encore.